Radio Kapi.
Je le disais, Belinda Bosuma à la présentation. Le chef de l'État s'est dit préoccupé par des bruits de grève initiés dans plusieurs secteurs à cause notamment de la non-application de certains accords pourtant agréés. Au dernier Conseil des ministres, Félix-Antoine Tshisekedi a exhorté le gouvernement à poursuivre sa politique d'ouverture et de dialogue avec les différents secteurs concernés. Sauf imprévu, la RDC accède très prochainement à la présidence de la SADC, la communauté des États d'Afrique australe. À cet effet, Radio Kapi amorce une série de reportages autour des enjeux de l'appartenance de la RDC à cette organisation sous-régionale à suivre dans ce journal. Nyunzu, dans le Tanganyika, le conflit intercommunautaire Twa-Bantu appartient désormais au passé. Les deux communautés ont fumé le calumet de la paix tout récemment au village Mayenze. Pour en parler, nous recevons Emmanuel Mukundi, élu de Nyunzu et initiateur de cette réconciliation. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République s'est dit préoccupé par des bruits de grève initiés dans plusieurs secteurs par les bancs syndicaux à cause notamment de la non-application de certains accords pourtant agréés. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit vendredi au cours de la 64e réunion du Conseil des ministres tenue à Kinshasa. Il a exhorté le gouvernement à poursuivre sa politique d'ouverture et de dialogue avec les différents secteurs concernés. On écoute à cet effet un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par Patrick Muyaya, ministre de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, extrait choisi par Alain Rongmouchinj.
Il a exhorté de ce fait le gouvernement à poursuivre sa politique d'ouverture et des dialogues avec les différents secteurs sociaux en vue de s'assurer que la sérénité règne dans les secteurs aussi bien de l'enseignement dans la perspective de la rentrée que dans les secteurs de la santé. Pour les sous-secteurs de l'enseignement primaire particulièrement, le président de la République tient à encourager les processus d'évaluation de l'accord de Bibois entre le gouvernement et les banques syndicales et de tout mettre en œuvre pour la réussite de la prochaine rentrée scolaire. Le monde universitaire, à travers le ministère de l'enseignement supérieur, est aussi concerné par ces discussions. Au sujet du secteur de la santé, le président de la République a formulé la même recommandation, à savoir le maintien du dialogue entre le gouvernement et les syndicats pour que ces secteurs ne soient d'aucune manière affectés par les mouvements des grèves.
Entre-temps, dans la province du Maniema, ce SOS du directeur de l'école primaire Fataki, situé à 68 km de Kindu dans le secteur des Béa, territoire de Pangui, y demande de l'aide aux autorités en faveur de son école avant la rentrée scolaire qui s'approche. Construite en 2012 sur fonds sociaux de la RDC, avec une capacité d'accueil de 270 élèves, l'école primaire Fataki accueille à ce jour plus de 600 élèves venus de 6 villages environnants. Son directeur plaide pour l'ajout des salles de classe, les bancs pupitres, ainsi que les manuels scolaires avant la rentrée. Kassemé Bakwamponga François l'a dit à Florence Kiza.
Oh, ça semble marcher, sauf l'école a une grande difficulté de la croissance d'effectifs d'élèves. L'école compte 628 élèves et nous avions connu cette construction à l'an 2012. Actuellement, nous sommes dotés de 8 classes. Lesquelles classes demandent la construction et l'augmentation de meubles. Au sein de cette école aussi, il y a un centre d'ENAFEP. Lorsque les élèves viennent, ils viennent beaucoup d'élèves. L'école est dotée de 16 écoles qui passent l'examen ENAFEP. Au niveau d'ici même. Et lorsque les enfants viennent, il vous manque aussi des places pour s'asseoir. Je demanderai aux autorités de pouvoir nous assister, intervenir à tous ces dégâts-là, l'insuffisance des locaux, l'insuffisance des bancs pupitres, et il y a aussi des manuels qui nous manquent, comme les dictionnaires. Nous exploitons les manuels difficilement, et surtout en français. Vu que l'école vit de la gratuité, l'intervention rapide souhaiterait, parce que les enfants peuvent étudier dans des conditions difficiles. Et comme on va démarrer l'année 2022-2023, il serait probable de pouvoir nous venir en aide dans l'opportunité du temps.
Du côté du Congo central, le préfet de l'Institut d'Isengomoka de la sous-division Banzangongo 1 vient d'être suspendu de ses fonctions. Il lui est reproché d'avoir monnayé à 10 000 francs congolais les inscriptions par élève alors que les inscriptions sont gratuites conformément aux dispositions pratiques édictées par le secrétaire général à l'EPST et relayées par le directeur de la province éducationnelle Congo central 2 pour une rentrée scolaire favorable apaisée. Le directeur de la province éducationnelle Congo central 2 qui a validé cette suspension indique que sa décision est un signal fort marquant la fin du règne des antivaleurs dans le sous-secteur de l'enseignement. Jean Tshisekedi Kabasele met en garde d'autres récalcitrants. Plus de détails avec Nana Plurich Mambou.
L'information sur les monnayages de l'équivalence en francs congolais de 5 dollars des inscriptions par élève, pour lesquels le préfet de l'Institut de Sengomoka est suspendu de ses fonctions, est arrivée aux oreilles des gens Tshisekedi Kabasele, prophète du Congo central 2, grâce à ses coordonnées téléphoniques qu'il avait données aux parents et élèves lors de ses sorties médiatiques. Les parents qui ont dénoncé ces faits ont brandi toutes les preuves de ces monnayages. Selon lui, le préfet de l'Institut du Sengomoka a foulé au pied les dispositions arrêtées par le secrétaire général à l'enseignement primaire, secondaire et technique, notamment en ce qui concerne la gratuité des inscriptions dans les écoles pour l'année scolaire 2022-2023, laquelle année il veut favorable pour les parents de toutes les bourses. Pour les prophètes du Congo central 2, la décision de les suspendre doit prouver que le train du changement est déjà en marche et les antivaleurs doivent être mis de côté. Jean Tshisekedi Kabasele.
Je peux tirer à l'oreille le reste des préfets qui ne veulent pas comprendre que le train est déjà en marche. Aujourd'hui, c'est lui. Il y a déjà des autres qui sont déjà dans des visères de notre stylo rouge. Nous ne cesserons jamais à décourager les antivaleurs dans notre sous-secteur.
Une action disciplinaire est ouverte en son encontre. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Comme dit dans le sommaire, sauf changement, la RDC va très prochainement accéder à la présidence de la SADC, la communauté des États d'Afrique australe. Ça sera à l'issue du sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale, sommet qui aura lieu les 17 et 18 août prochains à Kinshasa. À cet effet, Radio Okapi amorce une série de reportages autour des enjeux de l'appartenance de la RDC à la SADC. Pour ce premier reportage, Cynthia Bachizi, dites-nous c'est quoi exactement la SADC?
Eh bien, la SADC, dans sa forme actuelle, a été créée en août 1992 en Namibie. Elle regroupe en son sein 16 pays. C'est notamment des pays de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, le Lesotho, la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi, la Mozambique, la Namibie et le Swaziland. Ensuite, nous avons dans la partie de l'océan Indien les îles Seychelles, Maurice, Madagascar et le Comore. Et plus au centre-est de l'Afrique, la Tanzanie et la RDC, admises officiellement en 1997. Selon sa charte, les objectifs de la SADC consistent notamment à réaliser le développement et la croissance économique, mais aussi favoriser et défendre la paix et la sécurité. C'est ainsi que plusieurs experts en relations internationales analysent l'adhésion de la RDC à la SADC comme d'abord un choix stratégique de l'ex-président Laurent Désiré Kabila au moment où il était menacé militairement par ses ex-alliés. Des pays membres de la SADC, notamment la l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, à l'époque de Mugabe, avaient alors envoyé des troupes en RDC pour épauler l'armée congolaise.
Rendons-nous dans le territoire de Beni. Un calme règne dans la commune de Lomé après une période d'au moins 2 mois de terreur à la suite des incursions des groupes armés dans les EDF et ont coûté la vie à plus de 15 civils. Pour solidifier le mariage civilo-militaire, des sensibilisations sont faites dans ce sens par les acteurs de la société civile et les autorités locales. Marc Marofimbo nous fait le point.
La société civile de Lomé parle d'au moins 56% de la population de cette commune qui avait fui vers Mutuanga et Kasindi qui vient de retourner malgré la peur de la situation sécuritaire dans la zone qui est encore volatile. Bien que les activités socio-économiques semblent reprendre à la normale dans cette cité, la majorité de la population de Lomé reste encore dans son lieu de refuge. À cet effet, cette structure citoyenne a amorcé depuis le début de la semaine avec une série de sensibilisations de la population pour renforcer les marais civilo-militaires dans le but de lutter contre l'insécurité dans la région. Germain Kitambal, la présidente de la société civile de Lomé.
Nous avons mené des sensibilisations, nous sommes en train de passer quartier par quartier avec les commandants des RDC, avec le chef de quartier, donc les services de sécurité. Nous sommes en train de mener des réunions dans des quartiers pour faire voir la population que nous n'avons qu'une seule force armée qui est la RDC. Nous n'avons qu'une seule police, alors nous devons cohabiter, nous devons collaborer, nous devons fournir beaucoup d'efforts pour que le mariage civil et militaire tenir.
Germain Kitambal ajoute que cette série de sensibilisations s'étendra dans la semaine prochaine à Boulongo, Mutuanga et Kasindi où les déplacés de Lomé sont momentanément en refuge. Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Restons à Béni. Le maire de la ville appelle les jeunes à prendre leur destin en main. Appel lancé à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août de chaque année. C'est référent aux séries de manifestations de violence enregistrées dans la province du Nord Kivu. L'autorité urbaine encourage les jeunes à être pacifiques et à se focaliser sur l'entrepreneuriat pour bâtir leur lendemain. Le commissaire supérieur principal Narcisse Kachalé, maire de Béniville, s'exprime au micro de Marc Marofimbo.
Profitez de votre jeunesse. Ne vous détruisez pas. Positivez votre vie. C'est difficile aujourd'hui qu'on puisse nous comprendre de parler de la paix parce que tout le monde aujourd'hui est déterminé à faire la violence. D'ailleurs, personnellement, je suis en train de vous jeter les fleurs. À Goma, il y a eu ce qu'il y a eu. À Butembo, n'en parlons même pas. À Kassindi. Mais à Beni, rien n'a été fait. C'est grâce à vous, la jeunesse. C'est parce que vous avez compris. Je suis en train de lire des messages. On nous taxe, nous, Beni, comme des femmes, comme des femmelettes, comme des fillettes, parce que nous n'avons pas agit comme... Mais écoutez, mes frères et sœurs, vous êtes là. À Butembo, nous avons perdu des compatriotes. Il y a des familles endeuillées, maintenant là. Mais où est la MONUSCO? Elle est toujours là. Mais nous avons perdu nos compatriotes. C'est nous qui perdons. Concernant l'entrepreneuriat, n'attendez rien. Il n'y aura rien. Si nous-mêmes, nous ne faisons pas quelque chose. Profitez de votre jeunesse. Pendant que vous êtes forts.
Béni toujours, les 13 militants du mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha, arrêtés depuis novembre 2021, ont été libérés samedi. Ils avaient été arrêtés en pleine manifestation devant la mairie de Béni pour exiger la fin de l'état de siège qu'ils avaient qualifié d'inefficace vu la recrudescence de l'insécurité dans la région. Transférés à la prison centrale de Kangbayi après avoir passé quelques jours dans le cachot de l'auditorat militaire garnison de Béni, ces 13 militants de la Lucha étaient poursuivis pour désobéissance. Obéissance à l'autorité établie. Province de l'Équateur. Le Conseil provincial de la jeunesse invite les jeunes à un éveil de conscience et à un engagement tous azimuts dans sa formation dans tous les secteurs de la vie. Le Conseil appelle aussi le gouvernement de l'Équateur à un appui concret en vue d'aider cette jeunesse à redorer son image ternie par l'ignorance, la manipulation politicienne, la pauvreté et plusieurs autres antivaleurs. Ce message a été lancé au cours d'un point de presse animé hier par le porte-parole du Conseil provincial de la jeunesse Équateur en marge de la Journée mondiale de la jeunesse. On écoute Maître Agapao Zoé Ipondo, chargé de communication média et porte-parole du CPJ Équateur. Il explique au micro de Paul-Richard Malengela.
D'entrée de jeu, il faut dire que l'engagement et l'implication effective dans les développements commencent par une préparation, une éducation, des compétences, une formation adéquate pour passer à l'action. C'est pourquoi il est important d'améliorer de manière proactive notre travail sur le développement du capital humain. Alors, puisque nous discutons de la nécessité pour les jeunes de passer à l'action, l'appui et l'accompagnement du gouvernement provincial en faveur de la jeunesse équatorienne ne devrait pas être une théorie sur le papier, mais bien au contraire, une pratique pour sauvegarder l'intérêt général en faveur de cette jeunesse. Alors, l'engagement des jeunes, élément moteur de la consolidation de la paix, de la solidarité et de la création d'emplois pour tous. Étant le thème choisi à l'échelle internationale, nous invitons la jeunesse équatorienne à un éveil de conscience, à consolider la paix, l'unité et l'amour entre jeunes, au fond de pouvoir redorer l'image de celle-ci.
Notez que pour des raisons logistiques, a indiqué Maître Agapao Zoé Ipondo, le Conseil provincial de la jeunesse Équateur a reporté la cérémonie marquant la Journée mondiale de la jeunesse au vendredi 19 août prochain. Le Maniema est la première province en RDC à produire le plan simple d'aménagement du territoire conformément au guide des zonages participatifs. Ce processus a été mené au village Mamwe Kindikimozi du secteur de Béa, territoire de Pangui. Élaboré et validé par la population elle-même, cette activité a été appuyée par la GIZ Pired Maniema et différents services techniques de la province ainsi que la division nationale de l'aménagement du territoire. Hier samedi, la coopération internationale allemande GIZ a remis officiellement ces documents au chef de cette entité territoriale décentralisée qui à son tour l'a remis à la population. Ce plan simple d'aménagement du territoire permet non seulement la délimitation du territoire mais aussi la réduction des conflits fonciers entre les villages voisins qui constituent un frein au développement en milieu rural. Explication de Florence Kiza.
C'est avec une joie immense que la communauté des Mambwe Kindikimuzi a reçu ces documents. Boalo Sekiluka est du comité local de développement des BA.
Nous sommes ravis de joie parce que avant que ces plans soient présentés chez nous, nous vivions dans l'ignorance parce qu'on ne savait pas des limites entre nos entités. Mais avec ce plan qui est dans nos mains aujourd'hui, chaque entité se détermine pour savoir maintenant sa limite et il n'y aura plus encore de conflits.
Même sentiment pour le chef de division provinciale d'aménagement du territoire, Kasongo Shindano.
Pour la première fois, le plan simple d'aménagement du territoire qui sera modèle à tous les autres territoires du Maniema ainsi qu'au niveau de la République entière.
Les représentants du ministre provincial d'aménagement du territoire, Mutumbi Wakiatula, formule quelques recommandations aux bénéficiaires.
Nous demandons aux responsables des entités à bien faire respecter ce plan simple d'aménagement du territoire pour en faire un catalyseur de développement, car il est le fruit de vos efforts consentis. Qu'il plaise en plus aux partenaires GIZ d'accompagner les CLD dans d'autres projets multisectoriellement.
Depuis Pangui, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les rotations des contingents de la mission de l'ONU au Mali reprennent dès demain lundi 15 août. C'est ce qu'a annoncé samedi à l'AFP le ministre malien des Affaires étrangères. Une information également confirmée par la MINUSMA. Les rotations reprennent donc après avoir été suspendues pendant un mois. C'est une reprise sous des nouvelles conditions. Si les contingents devaient jusqu'à présent saisir directement les autorités maliennes pour obtenir le feu vert pour leur rotation, ils devront à partir de lundi passer par la MINUSMA. C'est l'organisation onusienne qui centralisera dorénavant les demandes, les étudiera, les validera pour ensuite les transmettre au ministère des Affaires étrangères malien.
L'invité.
Il nous vient du territoire de Nyunzu, province du Tanganyika. Le conflit intercommunautaire Twa-Bantu appartient désormais au passé dans ce territoire. Les deux communautés ont fumé le calumet de la paix. La cérémonie de réconciliation a eu lieu il y a quelques jours dans le village Mayenze. Pour en parler, nous recevons le député national Emmanuel Mukundi, élu de Nyunzu et initiateur de cette réconciliation. Il s'entretient avec Paulin Munanga.
Professeur Emmanuel Mukundi, bonjour.
Bonjour, monsieur Paulin.
Vous êtes l'artisan de la réconciliation entre les deux communautés, Twa et Bantu. Dites-nous tout d'abord, comment êtes-vous parvenu à réunir les deux communautés sur une même table des négociations?
C'est depuis 2013 qu'il y avait conflit entre le Twa et les Bantu dans la province du Tanganyika, et ce, dans 5 territoires sur le 6. Alors, c'est depuis 2017 que dans tout le territoire, il y a accalmie, il n'y a plus ces conflits, sauf dans les territoires de Nyunzu. Ces conflits qui a persisté jusqu'à aujourd'hui. Alors, comme élu national, je me suis intéressé à cette question au travers de ma fondation dénommée Emmanuel Mukundi pour pouvoir aller vers le toit et aller aussi vers le Bantu, leur demander qu'on soit ensemble pour qu'on puisse construire notre territoire ensemble. Je n'étais pas seul, j'ai été accompagné par les députés provinciaux, notamment l'honorable Alvar et l'honorable Dominique.
Comment vous avez procédé pour parvenir à cette réconciliation?
Pendant les vacances parlementaires de décembre dernier, nous avons commencé d'abord par chercher les contacts avec le chef de milice Twa. Et par des contacts téléphoniques, nous avons pu quand même créer la confiance entre nous. Et c'est comme ça que nous avons envoyé une délégation composée de chefs coutumiers du contrée, de jeunes et de quelques notables. Ils étaient 10 pour aller négocier avec eux, pour leur demander quels étaient les desiderata et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour pouvoir rentrer et vivre ensemble.
Et j'imagine que avant d'atteindre le Twa, vous avez été buté à certaines difficultés.
Exactement. D'abord, la première des choses, c'est la route. Ça fait 7 ans de cela que personne ne pouvait traverser cette zone. C'était une zone rouge, c'est-à-dire une zone où on tuait les gens facilement. Quand un Twa rencontre un Mutu, il tue. Et le jeune Bantu aussi, il faut le reconnaître, qu'on appelait les éléments, quand il rencontre un Mutu, il tue. Donc, c'était une zone où personne ne pouvait passer. Mais comme on avait la confiance déjà du côté des chefs rebelles Twa, et que de l'autre côté, on avait la confiance de l'armée, nous avons traversé la zone gardée par l'armée, sans la non-fardessé, sans problème. Et de l'autre côté, nous étions assurés qu'on doit être protégés parce qu'on nous a envoyé même le jeune milice Twa qui sont venus nous prendre pour négocier. Alors, nous avons négocié. Ils nous ont donné quand même quelques conditions. Ils nous ont dit, nous allons sortir. Vous êtes député national avec vos collègues provinciaux. Vous êtes des chefs coutumiers. Vous êtes des jeunes. Mais que dit l'État? Ça, c'était la deuxième phase. C'est comme ça, lorsque je suis venu par ces vacances ici, j'ai commencé d'abord par demander l'autorisation à madame la gouverneure. Et pour cela, il faut que je dise...
Tanganyika,
évidemment. Pour cela, il faut que je dise vraiment merci parce qu'elle n'a pas hésité. sécurité, l'a dit honorable, la sécurité c'est notre première chose. Et nous a donné l'autorisation pour aller avec un document montrant que c'est elle qui a envoyé la délégation. Alors là, nous avons fait deux groupes. Le premier groupe est allé vers la frontière avec le Nord Kivu, là où réside M. Mundus, qui est le leader de ces mouvements dans le territoire de Nyunzu. Et le deuxième groupe est allé dans le groupement même, Bakalanga 2, là où il y a l'autre chef de guerre qui s'appelle 5-5, qui dépend de Mundus. Parce que celui qui est ici, c'est celui qui est sur le terrain, il fallait négocier avec lui, même si celui qui est là a accepté. Et alors, nous nous sommes convenus le 1er août, qui est la rencontre. Alors, ceux qui sont partis chez Mundus, ils ont négocié du 1er août jusqu'au 3. Ils ont passé 4 nuits de l'autre côté. Mais nous qui étions ici, nous avons commencé nos négociations le 31 juillet et le 1er août, nous nous sommes convenus de nous rencontrer à Mayenze. Mayenze, c'est dans le groupement Bakalanga. Le toit devait venir à 80 et les bantous aussi 80. Mais heureusement pour nous, une très grande surprise, les toits sont sortis tous. Plus de 300 ménages.
Mais il y a un problème qui se pose. Les toits ont quitté l'endroit où ils vivaient. À l'occasion de cette réconciliation, ils sont venus. Et maintenant, leur prise en charge se fera comment?
Tous ces toits-là qui ont quitté la brousse, là où ils ne cultivaient pas, là où ils s'est caché et rentré dans le village respectif, ils ont besoin d'un appui. Quel est cet appui? À part la sécurité dont nous venons de parler, il y a aussi l'appui en termes d'alimentation. Il y a aussi l'appui en termes d'habillement. Ils n'ont pas d'habits. Si vous le voyez, monsieur le journaliste, vous-même pouvez prendre votre chemise, vous donner. Et aussi, la chose la plus urgente, ils n'ont pas où abriter. C'est comme ça qu'ils demandent des bâches. Ils ont vraiment besoin de bâches pour pouvoir s'abriter, construire leur hit, des fortides, de sorte qu'ils reprennent la vie à la normale.
Professeur Emmanuel Mukundi, merci.
L'élu de Nyunzu répondait aux questions de Paulin Munanga. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rongmouchinj, Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Merci de l'avoir suivi.